l'heure du journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, les détails du projet de loi anti-Covid présenté en Conseil des ministres hier soir. Quelques ajustements par rapport à ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, notamment sur les contrôles et les sanctions concernant le pass sanitaire. Le porte-parole du gouvernement a promis une période de rodage d'au moins une semaine. Les autres titres, Kevin.
Nous sommes entrés dans une quatrième vague de Covid, affirme également Gabriel Attal, constat partagé par nombre de médecins, vous l'entendrez. Nous irons en Australie où la stratégie de lutte contre le Covid est bien différente. Sydney est confiné depuis 3 semaines jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de cas. Dans ce journal encore, les suites des révélations sur le logiciel espion Pegasus, avec le témoignage d'un Français qui a travaillé pour son concepteur. L'Europe qui se préoccupe du temps de travail des militaires. Et puis à l'heure des balades estivales, attention aux tiques, les petites bêtes qui transmettent notamment la maladie de Lyme.
Les invités de la matinale de France Inter à 7h50, Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM. Le virus Delta contamine à la vitesse de l'éclair, ce sont les mots hier du porte-parole du gouvernement. Nous ferons le point sur l'état réel de la situation. Et puis dans le grand entretien, le président de groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale est-il d'accord pour voter ces nouvelles restrictions imposées par le pass sanitaire? Rendez-vous avec Damien Abad à 8h20 et avec toutes vos questions, vos réactions comme toujours au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. La sentence est claire et le ton est de plus en plus grave du côté du gouvernement. Nous sommes entrés dans une quatrième vague, dit son porte-parole Gabriel Attal, qui présentait hier le projet de loi anti-Covid adopté en Conseil des ministres pour lutter contre une épidémie qui flambe à nouveau. Ce projet de loi, on en parle depuis l'allocution d'Emmanuel Macron il y a 8 jours. Alors au final, que contient-il vraiment, Claire Flochel?
Première mesure forte, tous les soignants, mais aussi toutes les professions en contact avec les personnes fragiles, ainsi que les pompiers, devront être entièrement vaccinés au 15 septembre. Pas de concession non plus pour les restaurateurs, les cafetiers ou encore les exploitants de théâtre. Le pass sanitaire entrera bien en vigueur ce mercredi pour les lieux de culture et de loisirs, et début août pour les restaurants, les bars et certains centres commerciaux. Mais il y aura une période de tolérance, dit Gabriel Attal.
Nous avons décidé que dans un premier temps, une période de rodage s'appliquerait. C'est-à-dire que les personnels, les forces qui vont être mobilisées pour les contrôles vont l'être dans un premier temps pour l'accompagnement des établissements dans la mise en œuvre du pass sanitaire.
Le porte-parole du gouvernement n'a pas donné plus de précisions sur ce temps de rodage, une semaine, peut-être deux. Et pour ces établissements, l'amende ne sera finalement que de 1 500 € en cas de non-contrôle et au lieu des 45 000 € prévus initialement. Enfin, c'est aussi une nouveauté, toutes les personnes positives au Covid devront être isolées pendant 10 jours, comme l'explique Gabriel Attal.
Cette mesure existait déjà pour les personnes rentrant de l'étranger, d'une liste de pays rouges, avec un contrôle de police et des amendes possibles, des verbalisations jusqu'à 1 000 €.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État avait recommandé que les personnes isolées ne puissent pas être contrôlées après 21 heures. Ce sera un peu plus tard. Pas après 23 heures, a précisé le porte-parole du gouvernement, et ce jusqu'à 8 heures du matin.
Claire Flochel. Et le Conseil d'État a aussi émis des réserves sur l'accès aux centres commerciaux, en théorie bientôt conditionnés à la présentation d'un pass sanitaire. C'est une atteinte disproportionnée aux libertés, dit la juridiction, puisque ça concerne l'accès à l'alimentation, plus largement aux biens de première nécessité. Là aussi, le gouvernement a promis des ajustements. La mesure ne s'appliquera pas dans les bassins de vie, où les centres commerciaux sont les seuls lieux permettant de faire ses courses essentielles. Des restrictions de liberté voulues par le gouvernement pour encourager la vaccination et tenter de gagner la course avec le variant Delta qui avance à la vitesse de l'éclair, selon Gabriel Attal. Près de 7500 cas quotidiens de Covid en moyenne sur la semaine écoulée. On assiste donc bien à une quatrième vague de coronavirus, selon le docteur Bruno Mégarban, médecin en réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Si on s'intéresse aux contaminations, nous sommes déjà dans une quatrième vague, c'est-à-dire désormais une progression de l'épidémie de façon exponentielle avec un doublement du nombre de nouvelles contaminations en France tous les 7 jours. Si maintenant nous parlons de patients admis à l'hôpital pour des formes graves de la Covid-19, eh bien, pour le moment, nous sommes éventuellement au pied d'une possible vague. À ce jour, le solde de patients hospitalisés dans les services de médecine conventionnelle et en réanimation continue de diminuer, mais cette diminution reflète la fin de la troisième vague.
Le docteur Bruno Mégarban, il répondait à Sandrine Etoa Andegue. Et quand la France, comme d'autres, choisit de vivre du mieux possible avec le virus, d'autres pays adoptent une approche radicalement différente. La stratégie zéro Covid, autrement dit faire disparaître le virus, notamment en fermant drastiquement les frontières et en confinant dès l'apparition d'un foyer de contamination. C'est ce que fait l'Australie, 25 millions et demi d'habitants, moins de 1000 victimes depuis le début de la pandémie. Sydney, plus grande ville du pays, est reconfinée depuis 3 semaines et c'est plutôt bien accepté par la population. Reportage Grégory Pless.
C'est l'heure de sortir le chien à Sydney. Une excuse aussi pour prendre un peu l'air sur laquelle ne rechigne pas Romina. Bien sûr, le confinement lui complique la vie. Pourtant, elle le soutient à 100%.
Je pense que c'est bien pour protéger notre communauté d'essayer de réduire le nombre de cas à zéro. Ça n'est pas facile. J'ai 3 enfants, un chien et je télétravaille. Mais nous devons faire ce qu'il faut faire.
Anthony, lui, pense même que le confinement, ça n'est au final pas si pénible que ça.
On peut toujours sortir se balader, acheter des biens de première nécessité, ça inclut le vin. Et ça, c'est très bien.
En revanche, Juliette est-elle un peu déprimée par la situation actuelle. Mais faute de vaccin, elle estime que ça reste le moyen le plus efficace de se protéger.
Tant qu'on n'aura pas plus facilement accès au vaccin, la seule chose qu'on peut faire, c'est rester à distance les uns des autres et agir comme si nous avions le Covid.
Et c'est là toute la difficulté. À l'heure actuelle, à peine 11% de la population australienne est totalement vaccinée. Le problème étant que le gouvernement, initialement, a presque entièrement misé sur AstraZeneca avant de déconseiller ce vaccin aux personnes âgées de moins de 60 ans. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
7h07, la suite du journal de Kevin Dufraîche et un témoignage sur la société qui a inventé Pegasus.
Ce logiciel espion utilisé par plusieurs États pour cibler des avocats, des journalistes ou encore des personnalités politiques. On vous en parle ces derniers jours au travers des révélations de France Inter avec la cellule investigation de Radio France qui font partie d'un consortium international de journalistes qui enquêtent sur le sujet. En 2019, l'ancien ambassadeur de France en Israël, Gérard Haro, a collaboré avec NSO, la société israélienne à l'origine de Pegasus. Il était consultant extérieur chargé de lutter contre les violations des droits humains. Aurélien Colli.
L'ancien diplomate Gérard Haro insiste, il n'a été que conseiller extérieur de la société israélienne 1 an pour tenter d'introduire de bonnes pratiques.
J'ai eu l'impression que je ne servais pas à grand-chose. Vous n'avez pas accès aux informations les plus secrètes de l'entreprise. J'ai tiré la conclusion que c'était très difficile d'éviter le pire avec ces technologies de surveillance. C'est une menace pour nos libertés publiques d'ailleurs.
Pour l'ancien diplomate, il faut néanmoins faire une différence entre d'un côté la société israélienne qui vend le logiciel, le produit destiné à lutter contre le terrorisme et la grande criminalité, et de l'autre, l'usage qui en est fait par les États qui l'achètent.
Vous avez des gouvernements, y compris des gouvernements démocratiques, qui utilisent le produit ensuite pour espionner à la fois l'opposition, les journalistes et les militants des droits de l'homme.
En Europe, par exemple ?
Non, je ne peux pas vous dire, parce que bon, il y a des exigences de confidentialité, mais je pourrais vous dire qu'il y a des voisins de la France qui l'ont fait. Et la France ne l'a pas acheté, mais d'autres, notamment au moment des années 2015-2016, où vous avez vu les attentats terroristes, le produit a été utilisé en Europe.
Et Gérard Haro de considérer désormais ces logiciels de surveillance comme de véritables armes de guerre. Et comme dans les ventes d'armes, il y a des clauses qui ne sont pas forcément respectées par les acheteurs.
Aurélien Colli et toutes les révélations sur Pegasus sont à lire sur franceinter.fr. En bref, à l'étranger, des roquettes ont explosé ce matin à proximité du palais présidentiel en Afghanistan. Alors que le président Ashraf Ghani s'exprimait à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Un événement alors que les combats continuent de faire rage entre les forces gouvernementales et les insurgés talibans qui affirment contrôler une grande majorité du pays. Oui, les règles sur le temps de travail doivent s'appliquer aux militaires. Temps de pause comme durée maximale de travail par semaine. Et c'est ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne. Les soldats sont des travailleurs comme les autres, sauf lorsqu'ils sont en opération. Des mesures inapplicables, répond l'armée, du fait même du statut des militaires censés être toujours disponibles. Nathalie Hernandez.
En dehors des opérations, les militaires ne pourront pas travailler plus de 48 heures par semaine et ils auront droit à un repos minimal de 11 heures par tranche de 24 heures. Cela va concerner toutes les activités liées à l'administration, l'entretien, la réparation ou encore la santé. De quoi mettre les armées françaises sérieusement dans l'embarras, explique le porte-parole du ministère, Hervé Grandjean.
Mener une opération militaire, c'est un tout. Quand nous décidons de transférer des patients, par exemple, d'une région à une autre, dans le cadre de l'opération Résilience pour lutter contre le Covid, sous un très très bref préavis, nous déployons des hélicoptères, des avions de l'armée de l'air et de l'espace. Et il n'y a pas que les pilotes et les équipages qui sont à bord de ces avions. Il y a des mécaniciens qui réparent. Si ces personnes-là sont soumises à un temps de travail, eh bien, on ne pourra pas avoir la même réactivité que celle que nous avons aujourd'hui. C'est donc tout à fait problématique pour le déploiement de nos forces armées et la réalisation de nos missions.
Aucun recours n'est possible contre cette décision. Le ministère des Armées va donc étudier la façon dont cet arrêt peut s'appliquer sans que cela fragilise le statut et les missions des militaires. La France, qui prend la présidence de l'Union européenne l'an prochain, pourrait aussi remettre en question cette directive. Elle pourrait compter sur le soutien de l'Espagne et de la Slovénie, elles aussi opposées à cette réorganisation du temps de travail dans leurs armées.
Nathalie Hernandez, un tournant écologique pour le gouvernement, un manque d'ambition pour les ONG. La loi climat et résilience va être définitivement votée cet après-midi par l'Assemblée nationale et le Sénat. Des militants écolos manifestent cet après-midi sous les fenêtres des députés, avec parmi eux des membres de la Convention citoyenne. La loi est en partie issue de leurs travaux, et alors que ce matin, l'Agence internationale de l'énergie estime que les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre un niveau jamais vu en 2023.
C'est grand beau sur toute la France aujourd'hui.
Et ça va durer au moins jusqu'à ce week-end, de l'occasion pour vous peut-être d'aller vous promener en forêt ou à la montagne. Une bonne idée, assurément, mais attention aux tiques, ces acariens d'extérieur, si l'on peut dire, qui peuvent transmettre un certain nombre de maladies, dont la maladie chronique de Lyme. Alors comment sont-elles surveillées et que faut-il faire en cas de piqûre? Réponse avec Cécilia Arbona.
Depuis 2016, dans le cadre d'un programme de recherche participatif, des citoyens volontaires aident la communauté scientifique à repérer les tiques. Plus de 35 000 spécimens ont été collectés par des particuliers et analysés. Johanna Fitt, responsable de la mission Vecteur à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire.
Et elles aiment se nourrir sur des petits animaux de type campagnol, mulot, écureuil, mais aussi sur des plus grands tels que des cervidés notamment. Donc on va les retrouver là où on retrouve leurs hôtes de prédilection.
30% de ces petites bêtes, appelées aussi les poux des bois, portaient un agent pathogène potentiellement dangereux.
Aussi bien des virus que des bactéries ou encore des parasites. Elles s'accrochent à la peau et fabriquent une sorte de petit ciment, donc elle est très très bien accrochée en général. Il ne faut pas l'arracher de manière trop brusque, sinon on risque de laisser une partie des pièces buccales. Après l'avoir détachée, il faut désinfecter la plaie et puis la surveiller pendant plusieurs semaines. Il faut consulter un médecin si dans les jours qui suivent la piqûre, on a des symptômes inexpliqués tels que fièvre ou fatigue extrême ou des lésions cutanées anormales.
En 2019, 50 133 cas de maladie de Lyme ont été répertoriés en France métropolitaine.
Cécilia Arbona, et puis c'est la fin de 11 ans d'attente pour plus de 130 000 chanceux ce soir. Ceux qui ont réussi à avoir leur place pour les avant-premières du film Kaamelott, c'est un record pour un film français. Le roi Arthur est de retour. Arthur alias Alexandre Astier, qui était d'ailleurs votre invité hier, Karine. L'interview est à réécouter sur notre site franceinter.fr.
Merci Kevin Dufraîche, et on vous retrouve, vous, avec plaisir à 9h.